Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Premier dossier ce matin, le cas de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Puis je vais essayer d'être le plus clair possible parce qu'il y a beaucoup de chiffres, puis je vais en retenir que quelques-uns. Et je sais que les scientifiques seront peut-être pas d'accord, mais pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, c'est important de, je dirais, limiter les images. On a une fonderie qui pollue depuis des années. Au Québec, on a établi que la norme d'arsenic était de 3. Je n'irai pas dans tous les détails. Okay, on va retenir le chiffre principal, là, qui est 3. On a permis à cette entreprise d'aller jusqu'à 100 fois. Hier, le ministre Benoît Charrette nous dit on ramène ça à 15, mais dans 5 ans. Et on ira à la norme de 3, on ne sait pas quand. Et pourquoi c'est 15? Parce que le docteur Boileau de la Santé publique nous dit dans un avis que c'est correct, que c'est sécuritaire. Tu regardes ça comme citoyen, tu dis, mais pourquoi la norme c'est 3 si on tolère 15? Et pourquoi on a toléré jusqu'à 100, et j'inclus le gouvernement de Jean Charest à l'époque, si sur le plan de la santé, on reconnaît qu'il y a un problème? Il y a eu une étude, rappelons-nous, le jeu un peu de passe-passe du docteur Arruda, qui a dit « j'ai besoin d'informations additionnelles, on est en 2018 ». Et puis finalement, on arrive avec cette décision de Québec. La CAQ a un profond déficit de crédibilité en matière d'environnement et vient d'en faire une autre démonstration. Si vous êtes un citoyen de ce quartier de Rouyn-Noranda, puis qu'on vous explique que vous serez soumis à de l'arsenic au-dessus de la norme québécoise, quelle est votre réaction? Puis je parle pas des autres contaminants qui sont dans l'air. Glencore, qui est la maison mère de cette fonderie, génère des milliards de profits. Et cette entreprise nous dit qu'elle est maintenant prête à soumettre un plan. Évidemment, Québec devra participer au financement de ces mesures. Je vous l'ai dit hier matin, puis je le répète, on se gratte la tête sur les avis de santé publique puis les avis de santé publique politique qui sont émis dans ce dossier-là. Et il y a quelque chose de profondément indécent de tolérer ce niveau de pollution et de l'avoir toléré depuis des années. Puis là, on nous annonce un forum, une assemblée, consultation en ligne des citoyens. Et si les citoyens disent au gouvernement qu'ils n'acceptent pas, parce que hier, on nous présente ça en disant « Regardez, c'est fantastique », on passe là de 100 potentiels accordés à 15. Et pourquoi on le fait? Parce que le docteur Boileau nous dit que c'est correct. Mais la norme québécoise, c'est pas ça. Alors, est-ce que ça peut devenir un enjeu de campagne électorale? Je ne sais pas. Mais juste rappeler que la fonderie Horn a demandé un plafond d'arsenic 20 fois supérieur à la norme. Ils n'ont pas une trop grande préoccupation de l'impact sur la santé des gens et sur le développement de cancer. Puis ce qu'on peut ajouter aussi, peut-être rappeler au gouvernement, quand on tolère ce niveau de pollution et qu'on provoque des maladies chez les gens, il y a une facture aussi à payer pour le gouvernement. Parce que ces gens-là vont voir des médecins, vont avoir des traitements, vont être... Bon, c'est peut-être pas bien important. Et ça passe un peu, là, hier, comme étant une belle nouvelle. Ben moi, je trouve pas. Je trouve pas que c'est... Ce matin, là, on se réjouit de ça. Et pourquoi le gouvernement est allé là? Parce qu'il y a eu une pression politique, il y a eu une pression public s'est exercé. Et je reviens rapidement, très rapidement, sur la question de la qualité de l'air dans les classes. Je pense que ça aussi, c'est un enjeu. Hier, on nous disait qu'on a installé des détecteurs, là, des lecteurs, en fait, de CO2. La question, c'est combien de classes au Québec sont pas équipées pour garantir au personnel puis aux enfants une qualité de ventilation. Puis là, je fais pas la promotion de personne, là. Je vous invite à aller voir sur le site de Radio-Canada. C'est un reportage sur un ventilateur qui coûte à peu près 100 $. Et en fait, c'est un purificateur d'air avec des filtres. C'est une boîte qui a conçu ça. Et tous les détails sont... Je suis pas un expert. Je vous dis pas que ça marche. Je le sais pas. J'ai été intéressé de lire ça ce matin parce que je trouve qu'on est toujours dans un processus lent, qu'on s'attend à un plan élaboré pour l'ensemble du réseau, alors qu'il y a peut-être des gestes plus simples, pas trop dispendieux. Mais évidemment, dans la bureaucratie, c'est dur de trouver son chemin. Vous pourrez lire ça ce matin. On va parler de consommation et d'élection aussi. D'abord, hier, le ministre Éric Girard nous dit les chiffres présentés pour établir le cadre financier des partis politiques. Donc, ce que le ministère des Finances a présenté, la VG, a dit, ça tient la route. Les chiffres sont là. Québec a rempli les coffres grâce à l'inflation, donc ça nous a coûté plus cher, on a payé plus de taxes, il y a eu des augmentations de salaires. Alors, le robinet était ouvert, l'argent est tombé dans le bassin du gouvernement. Le ministre a dit, possiblement qu'on va pouvoir se permettre des baisses d'impôts. J'y reviendrai. Mais donc, l'économie du Québec en termes de revenus, de productivité, ça va relativement bien. L'argent rentre. Le gouvernement fait mieux que ce qu'il avait anticipé. Et il est en même temps assez prudent sur l'avenir. Donc, les revenus qui augmentent à peu près 5 milliards. En même temps, tu dis, on va regarder la réalité économique. Et là, je veux pas être l'oiseau de malheur ce matin, mais c'est vrai là que l'argent est là. Mais c'est parce qu'on paye cher. Puis je vais vous parler du panier d'épicerie dans 2 secondes. Un vieillissement de la population qui se confirme. Aucun avantage pour des retraités à travailler plus longtemps. Des broutilles. Des secteurs complets de l'économie où on cherche de la main-d'œuvre. Construction, réseau de la santé, les pharmacies, le réseau de l'éducation au grand complet, du primaire jusqu'à l'université. Donc, c'est comme une espèce de cercle vicieux. Les gens partent à la retraite, on n'a pas personne pour les remplacer, il y a des postes qui disparaissent. Les gens sont, par exemple, dans certains secteurs, veulent bonifier leurs conditions de travail. On peut comprendre ça. Mais est-ce que c'est, en même temps, une piste d'avenir intéressante? Je ne sais pas comment... Puis, tu sais, je peux ajouter la crise du logement, qui est réelle, qui est un peu niée quand on voit les engagements des partis politiques, là. Mais c'est réel. Puis quand Valérie Plante dit « je veux avoir du fric pour Montréal », meilleure équité fiscale, peut comprendre aussi. Parce que là, vous retrouvez à Montréal un déficit de logements abordables. Puis là, ce matin, on parle pour les étudiants qui n'arrivent pas à trouver. On ne sait pas où ils vont se loger. Alors, il y a une série de problèmes comme ça qui sont importants. Alors, est-ce qu'on passe par la baisse des impôts? C'est sûr, on est dans une période électorale. Rappelons-nous ce que le gouvernement nous a dit. On pourrait peut-être vous donner un autre 500$ après l'élection. Puis là, hier, c'est le discours des baisses d'impôts. Alors, tant mieux. Maintenant, pour ce qui est du panier d'épicerie, il y a une étude de ce matin de Protégez-vous. C'est pas une très grande surprise d'apprendre que Super C et Walmart vous offrent le panier le moins cher. Pour une famille de 4 personnes qui dépense environ 265 $ par semaine, aller chez Super C ou Walmart, ça peut représenter des économies de 2000 $ par année. Et l'exemple qu'on donne, puis là on peut discuter de la qualité des produits, on peut discuter du volume qu'on doit acheter. Super C, offre un panier, par exemple, à 201 $ alors que le même panier coûte 243 chez IGA Extra. Quand on utilise les marques nationales, exemple, si vous aimez le beurre d'arachide Kraft, pas de marque maison, Walmart vous offre un prix moins élevé qu'ailleurs. 242$, on sélectionne ses produits avec les marques là, connues. Et chez Metro Plus, c'est 286$. Il y a évidemment tout le système de rabais, tout le système qui existe en épicerie. Costco, il faut quand même tenir compte de deux facteurs. Il y a un abonnement puis aussi la quantité qu'il faut que tu achètes. Alors, ça ne s'adresse pas à tout le monde. On va y revenir ce matin, mais il y a des économies potentielles qui sont réalisables. Avez-vous un rendez-vous aujourd'hui chez votre médecin de famille? Si oui, ce serait bien d'y aller ou à tout le moins d'appeler pour dire que vous pouvez pas y aller. Pourquoi? Parce que le Devoir nous donne des chiffres compilés par la Régie d'assurance maladie du Québec qui nous dit qu'en gros, près de 110 000 rendez-vous ont été manqués. Les patients ne se sont pas présentés. En restauration, on appelle ça les no-show. Ben, dans le cas des médecins, c'est le même phénomène. Des patients qui se présentent pas et qui n'appellent pas non plus pour annuler leur rendez-vous. C'est quand même beaucoup de monde. C'est une partie, semble-t-il, de la réalité. Et là, tu te dis, mais si... Puis on chiale, là, parce qu'on n'a pas d'accès à des médecins. Si on a un rendez-vous, comment peut-on ne pas y aller? Je peux comprendre, dans certains cas, la personne est malade, mais les médecins qui me disent, il y a des gens qui carrément oublient leur rendez-vous, pensent que c'est après-demain, ont oublié de le noter. Il me semble que quand tu as un rendez-vous avec un médecin de famille ou ton médecin de famille ou avec un spécialiste, tu ne peux pas oublier ça. Puis tu ne peux pas non plus ne pas appeler si, pour des raisons légitimes, ce rendez-vous-là en fait, tu n'es pas capable d'y aller. Donc, dans le Devoir ce matin, on nous explique que il y a, semble-t-il, des récidivistes, des patients, pas une fois dans l'année, là, mais régulièrement, se pointent pas à leur rendez-vous. Question, on fait quoi avec ces patients-là? On les barre, on leur dit « débrouille-toi, t'es pas fiable, pourquoi t'es pas là? Est-ce que des gens qui sont âgés, problèmes cognitifs? » C'est pas trop. Mais c'est dur à comprendre que quelqu'un là ne se présente pas à son rendez-vous. Alors, vous retrouvez ça ce matin dans Le Devoir. Je vous parlais tantôt de pénurie, de tout, là. T'sais. Ce matin, on nous explique bon qu'on cherche des profs à la grandeur du Québec, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Deux éléments à considérer. D'abord, il y a des syndicats, en fait, un syndicat de profs au niveau collégial qui affirme que la formation des étudiants qui se pointent au cégep cette année est en deçà du niveau auquel on doit s'attendre. Là, on met ça sur le dos de la pandémie. Des étudiants qu'on a gardés à distance, notamment qui ont eu leur premier mois au cégep ou encore qui ont fini leur secondaire à distance. Bon, beaucoup ont passé leurs cours et ont dû, je dirais, s'ajuster à des exigences moins fortes. Nivellement par le bas, on dit qu'il n'y a pas eu droit à l'enseignement, puis il y a du stress, puis de l'anxiété. On a un peu tourné le coin rond, là. Et là, le syndicat dit « on sent une baisse de qualité chez les étudiants ». J'ai pas de réponse, je vous lance ça. Vous êtes parents, peut-être des... Est-ce que la pandémie fait en sorte que les étudiants arrivent moins prêts? Moi, j'ai toujours entendu les profs du secondaire dire que les enfants du primaire arrivaient mal préparés. Puis j'entendais les profs de cégep dire « les enfants qui sortent ou les ados qui sortent du secondaire sont pas préparés ». Puis là, je vous fais grâce des commentaires des profs d'université, entre autres sur la qualité du français. Ça, c'est la première chose. Et on remarque également, cette fois c'est dans le Journal de Montréal, un taux d'échec plus important pour les étudiants qui ont suivi des cours d'été. Donc des compilations de résultats aux épreuves ministérielles qu'on attend, là, mais déjà on sent qu'il y a une augmentation pour les examens de reprise, qu'il y a eu des augmentations pour les examens de reprise dans les tests, dans les remarques obligatoires. Aussi, ce matin, un mot sur la situation internationale. D'abord, la guerre en Ukraine. Faut dire qu'il y a eu incendie Également, une série d'explosions sur une base militaire russe en Crimée. Ça reste à déterminer. Vladimir Poutine, qui accuse les Américains de faire traîner le conflit en Ukraine. Et on sent que c'est vraiment un conflit qui s'étire, qui n'en finit plus. Mais cette guerre-là existe. Elle fait moins la une, peut-être. On a tendance, c'est malheureusement ce qui arrive quand ces conflits s'éternisent, à baisser la vigilance. Mais les Ukrainiens demeurent quand même dans un pays qui est envahi par les Russes et qu'on tente de se défendre puis d'établir une forme de résistance. Alain, vous parlez tantôt d'un débat sur aux États-Unis, là, une femme qui avait le drapeau ukrainien puis une joueuse russe qui n'était pas confortable. Ce matin, dans la presse, on nous parle du drapeau russe, du Cirque du Soleil qui dérange. Parce que, et puis c'est pas d'hier, là, on sait qu'il y a eu le spectacle présenté dans le Vieux-Port de Montréal. Et parmi tous les drapeaux qui sont installés, il y a celui de la Russie. Et la réponse du Cirque du Soleil, c'est que on nous dit que c'est un symbole inclusif qui illustre le fait que l'art circassien rassemble des gens du monde entier. Citation de Mme Couillard du Cirque du Soleil, dans la presse. Et on ajoute que c'est pas parce qu'on installe le cirque dans un pays totalitaire, c'est pas parce qu'on fait affaire avec des pays où il y a violation des droits de l'homme qu'on est là pour cautionner. Le cirque est un élément de divertissement pour faire plaisir au peuple. Il en demeure pas moins que dans un conflit, dans une guerre, d'afficher le drapeau russe, à mon humble avis, c'est un manque de jugement dans les circonstances. Pas nécessaire de le faire. Mais le Cirque du Soleil n'a pas ces grandes préoccupations historiquement. Là. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples. Alors, ça fait le tour de nos manchettes pour ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va aborder le dossier de la fonderie Horn de Rouyn-Noranda. Hier, Québec a annoncé les nouvelles règles du jeu. C'est-à-dire que d'ici 5 ans, puis je vais essayer de garder ça simple en termes de chiffres, là, on va ramener la norme à 15. Actuellement, la compagnie pouvait aller jusqu'à 100. On parle toujours d'arsenic dans l'atmosphère. Et la norme au Québec est de 3. Le ministre de l'Environnement est avec nous, Benoît Charrette. Monsieur Charrette, bonjour.
Un plaisir.
Monsieur Charrette, on va, comme je le disais, garder ça simple. Actuellement, la fonderie Horn pouvait émettre jusqu'à 100, et je vais garder le chiffre simple pour nos auditeurs, là, dans l'atmosphère. Vous ramenez ça à 15 sur une période de 5 ans, en disant c'est la vie de la santé publique. La norme au Québec est de 3. D'abord, pourquoi 5 ans? Pourquoi prendre une période de 5 ans de partir d'un niveau qui est dangereux pour de le ramener à un niveau qui serait acceptable?
En fait, c'est colossal. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas Rouyn-Noranda, la fonderie elle-même, là, c'est un complexe industriel immense. Si c'était à Montréal, ça occuperait plusieurs quadrilatères. Donc, transformer cette usine-là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est la raison pour laquelle on donne un avis de 5 ans. Mais ce que l'on exige à l'entreprise, par contre, c'est de diminuer de façon considérable dans l'intervalle ces émissions. Ce qui fait qu'on n'attendra pas 5 ans avant d'avoir des résultats. Dès l'année 1, 2 et 3 et 4, on va s'attendre
Qu'est-ce
à des
Qu'est-ce que
résultats.
L'entreprise doit faire dans l'année 1?
En fait, dans les prochaines semaines, il va y avoir une consultation et on va déterminer justement les cibles intérimaires. Donc, lorsque la population sera consultée, elle va avoir toutes ces informations-là à sa disposition et ces cibles seront conséquentes et devront être assujetties aux règles de contrôle et de sanctions. Ce qui fait que
avec respect, là, je vous comprends pas, là, c'est des belles grandes phrases. Je veux savoir, dans l'année 1, quelle est l'obligation de la fonderie?
L'année 1, il ne risque pas y avoir de grands changements parce qu'il faut opérer transformations. Année 2, année 3, année 4, je suis pas en mesure de vous donner des chiffres. Ils seront disponibles pour la consultation, mais on peut penser, par exemple, si on est à 85 aujourd'hui, on va s'attendre à des diminutions vers les 60, 40 assez rapidement pour être à 15 par la suite. Et le 15 n'est pas sans valeur. C'est réellement la zone sécuritaire qui nous a été présentée par la santé publique, d'où l'objectif. Mais j'insiste, l'objectif ultime demeure le 3 nanogrammes.
Mais attendez, donc, là, pourquoi ce serait acceptable le 15 si la norme au Québec, c'est 3?
Ben moi, je vous demanderais pourquoi on a toléré des 100, des 200,
c'est
des 1000 jusqu'au cours des dernières années. Ça ne l'était pas. Cependant, on est le premier gouvernement qui, de façon concrète, dit à l'entreprise, on ne pourra plus continuer comme ça s'est fait au cours des dernières décennies. Parce que c'est pas une situation qui date d'hier, là. C'est une fonderie qui a 100 ans. Donc, pour la première fois, on fixe des règles très précises.
Mais M. Charrette, moi, avec grand respect encore une fois, je suis un citoyen de ce quartier-là, Rouyn-Noranda, vous venez me dire sérieusement que vous ramenez ça à 15 puis que le niveau québécois, c'est 3. Et j'ai le docteur Boileau de la Santé publique qui dit que ça devrait être correct si le risque est acceptable. Iriez-vous vivre à Rouyn-Noranda dans ce quartier-là?
Tout à fait. On passe de 100 à 15. On parle de 85 % de diminution des émissions.
Mais ça demeure 5 fois la norme du Québec.
Tout à fait. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que ce secteur qui sera à 15, il est très délimité au niveau de la géographie de la ville. L'essentiel, la très, très grande majorité de la population de Rouyn-Noranda va vivre dans un environnement à 3 nanogrammes. Donc, c'est un élément qui doit être mentionné. Pour le secteur qui est plus touché, avec des mesures d'accompagnement, pour naturellement accompagner les personnes plus vulnérables. Mais hier, on ne s'est pas limité à ça. On a imposé des nouvelles règles qui ne s'appliquaient pas jusqu'à maintenant, des normes quotidiennes. Parce que le fameux 15 nanogrammes ou le 100 nanogrammes, c'est une moyenne annuelle. Le gouvernement précédent n'avait pas jugé bon d'instaurer des normes quotidiennes. Donc, normalement, assez rapidement, on va avoir non seulement la moyenne annuelle à respecter, mais aussi la moyenne quotidienne.
Mais, je veux juste comprendre une chose.
Protéger les populations plus vulnérables.
Ça fait combien de temps, comme ministre de l'Environnement, vous savez que la fonderie Horn pollue, émet de l'arsenic avec ces niveaux-là dans l'air de Rouyn-Noranda?
En fait, la problématique, elle est connue depuis des décennies.
Non, mais vous, comme ministre,
depuis le début.
Et pourquoi ça a pris 4 ans?
Pour une raison fort simple, il y a un contrat qui a été signé à la fin de l'année 2017 par le précédent gouvernement. Un contrat ferme de 5 ans qui arrive à échéance avec la fin de l'année actuelle. Donc, je n'avais pas cette marge de manœuvre-là. Donc, on profite du renouvellement de l'autorisation pour fixer des conditions qui n'étaient pas présentes jusqu'à présent. Donc, la situation mais j'avais les mains liées jusqu'à l'échéance de ce contrat-là.
Monsieur Charrette, Dr Arruda, dans une rencontre, a décidé, il dit que non, là, mais a caché l'information aux Québécois puis aux gens de Rouyn-Noranda en disant « on va mettre ça dans un rapport plus tard, ça a pris 2 ans avant que l'info soit rendue publique ». Comment voulez-vous que le public ait confiance? Vous le savez depuis 4 ans, vous dites « j'ai les mains liées ». Ça vous tentait pas de sortir et de dire cette entreprise-là est en train de tuer du monde en Abitibi?
Ben, je vais relativiser. Moi, je vais reprendre les propos du docteur Boileau la semaine dernière, qui a fait un état de situation assez précis et qui a établi cette zone sécuritaire-là à 15 nanogrammes. Et tout ce que l'on a dit hier, peut-être un petit élément qui est important, sera appelé à faire l'objet d'une consultation. Hier, c'est une balle qu'on a mis au jeu. Si la population n'est pas satisfaite de cette proposition gouvernementale, je l'invite à participer en grand nombre à la consultation.
Ça veut dire que si les citoyens vous demandent de fixer comme norme 3, maintenant, vous allez le faire?
Tout à fait. En fait, c'est ce qui a été mentionné. Autant aux autorités municipales, autant... Parce qu'en fait, il y a un point de rupture à un moment donné. Si on arrive avec des exigences qui impliquent la fermeture de l'usine, ce qui est pas exclu comme scénario, la population doit en être informée. Donc, c'est la raison pour laquelle cette consultation-là est d'une grande importance.
On va prendre ça par étapes. Êtes-vous en train de me dire que l'entreprise, à plusieurs occasions, a menacé de fermer ses portes si les contraintes étaient trop sévères?
Absolument pas. Maintenant,
okay,
on
vous spéculez.
Ben, c'est-à-dire, si à un certain moment donné, les exigences sont d'un point de vue technologique, par exemple, impossibles à atteindre, c'est une conséquence qui est possible.
Parce que, écoutez, cependant, je vous suis pas. Vous me dites que si les citoyens vous demandent de ramener ça à 3, vous allez le faire. Puis en même temps, vous me dites, oui, mais si les technologies ne le permettent pas, on ne pourra pas le faire.
Non, mais ce que je vous dis, si c'est une attente de la population et que ça implique la fermeture de l'usine, la population sera conséquente avec ses choix. Nous, ce que l'on dit à l'entreprise, c'est que les décisions passées ne peuvent plus s'appliquer. Faut revoir le dossier de fond en comble avec des conditions nouvelles. On parle beaucoup du 15 nanogrammes, mais il y a des normes quotidiennes qui sont maintenant imposées. Il y a les nouveaux métaux qui sont considérés, ce que les libéraux n'avaient pas inclus. Il y a une obligation des contaminations. Il y a des nouvelles stations d'échantillonnage qui seront installées. Donc, on arrive avec un scénario qui est complètement
différent. Que les libéraux aient fait un job de merde dans ça, là, je suis le premier à en convenir. C'est inacceptable. Là où je commence à avoir des doutes, ce sont les avis de santé publique dans ce dossier-là. C'est parti du docteur Arruda qui a caché la réalité. Puis le docteur Boileau, comment voulez-vous que les Québécois avalent ça? La norme québécoise est de 3 et le docteur nous dit à 15, ça va être correct.
Moi, je vous ramène à ce que le docteur Boileau a mentionné. L'objectif demeure 3 et on l'a réitéré hier. Cependant, il y a une zone de confort,
une zone de sécurité.
Bon, il l'a bien expliqué. Moi, je suis pas médecin puis je suis pas spécialiste de la santé publique, mais il a présenté le fruit de nombreuses études et pas, ce n'est pas le docteur Boileau seul. Il y a l'INSPQ qui a eu à travailler le dossier. On vise 3 à terme, mais de façon réaliste, faut atteindre des étapes en décroissance et on sera à 15 dans 5 ans.
Le réalisme, c'est quoi? C'est d'éviter une fermeture d'usine?
Elle n'est pas...
C'est pas une question de santé publique, ça. C'est une question économique.
Le premier ministre le mentionnait à plusieurs reprises. Je l'ai mentionné. La priorité, c'est la santé publique. Ça, il n'y a aucun compromis qui est fait à ce niveau-là.
Je vous le dis, vous êtes en studio ce matin, je vous le dis très sérieusement, je commence à avoir des doutes sur les avis de santé publique qui deviennent des avis de santé publique plus politiques que de santé.
D'aucune façon. Vous savez, depuis 2 ans, j'ai entendu plusieurs théories du complot.
Non, c'est pas eux. Non, vous n'avez pas me dire que je suis un complotiste ce matin, là.
Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que faut être, comment le dire gentiment, ce sont des professionnels complètement indépendant, autant la santé publique, l'INSPQ. C'est pas le gouvernement qui dit à la santé publique, fixez-nous comme référence 15 et on va s'y coller. C'est un travail qui a été fait complètement indépendant.
Je ne vois pas de logique dans le fait qu'on explique aux citoyens que la norme est 3 et que le Québec, la santé publique dit 15, ça passe.
Moi, je ne trouve
5
pas.
5 fois plus.
Moi, personnellement, je ne trouve pas de logique. Ça fait des décennies que la situation perdure. Plusieurs gouvernements se sont succédés.
Ça, c'est correct.
Ils n'ont
là.
Pas accepté de prendre leurs responsabilités. Moi, je le fais à ce jour parce que l'entente arrive à échéance. Si j'avais pu le faire avant, je l'aurais fait avec grand plaisir. Mais c'est une entente de 5 ans qui arrive à échéance dans les prochains mois. Donc, c'est la
mais
première.
Mais toute l'information qu'on a camouflée pendant toutes ces années-là avant
on
de.
On n'a rien camouflé.
Ah,
d'ailleurs, la consultation, les citoyens pourront prendre leurs décisions de façon très éclairée. Il y a une page Internet qui sera mise à leur disposition avec toutes les données, autant au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau des impacts pour la municipalité.
Okay.
Donc, aucune information qui sera cachée.
Vous m'avez dit, en devenant ministre, je le savais qu'il y avait un problème là. Il y a combien d'ententes au Québec avec qui il y a des ententes de signer qui polluent au-delà des normes?
89 entreprises, donc ce n'est pas un fait qui est inhabituel. Ce qui se produit, c'est que ce sont des entreprises qui opéraient...
Donnez-moi des exemples de ces 89 entreprises qui polluent là à la manière Horn.
C'est tous des cas d'espèces différents. Des fois, c'est au niveau de l'eau, des fois, c'est au niveau de l'air. Ou
donnez-moi des entreprises,
je veux
savoir de quelle entreprise on parle.
Que ce soit des papetières, que ce soit...
Est-ce que je peux avoir des noms?
Je ne les ai pas tous en tête, naturellement, mais pour vous résumer la situation, ce sont des entreprises qui opéraient avant l'entrée en vigueur de la réglementation. Et ce sont des entreprises qui sont accompagnées pour justement se conformer dans une période de temps là, qui est déterminée.
On a donc 89 entreprises qui polluent au-delà des normes du Québec.
Exactement.
Et en termes de pollution de l'eau, pollution de l'air, est-ce que ce sont des entreprises qui se trouvent aussi dans des quartiers où il y a des citoyens?
Dans toutes les régions du Québec. On en a dans toutes les régions du Québec. Dans certains cas, ce sont des régions plus rurales. Dans certains cas, c'est des régions, effectivement, qui sont plus densifiées.
Et ils sont combien de fois de plus la norme?
C'est variable. Je ne peux pas faire de parallèle parce que ce ne sont pas les mêmes paramètres.
Mais est-ce qu'on a un paquet de petites fonderies Horn à travers le Québec?
C'est la seule fonderie dans cette situation.
Non, mais je parle d'entreprises qui polluent autant.
Horn est un cas d'espèce. C'est sans doute le cas d'espèce le plus flagrant. Je ne dirais pas le contraire. Mais dans d'autres cas, c'est des opérations qui datent aussi de plusieurs décennies.
Et vous allez faire quoi avec ces
89? Il y a des autorisations qui sont données. Là, dans le cas de la fonderie Horn, c'est un contrat qui avait été signé fin 2017, de durée de 5 ans. Et il y a des cas de figure semblables dans les autres entreprises. Mais la fonderie Horn, je le dis en toute transparence, c'est de loin le pire cas d'espèce. Et c'est la raison pour laquelle on y accorde autant d'importance. C'était mon troisième passage hier. On mise beaucoup sur la consultation pour que la population locale puisse se sentir libre de répondre à cette proposition. Elle a été formulée à la municipalité, au conseil municipal, à la mairesse hier, qui se disait satisfait. Maintenant, on va voir l'opinion de la plus grande proportion de citoyens possible pour voir s'ils se reconnaissent dans ces balises-là.
On verra l'issue de la consultation. Vous allez faire quoi avec les 89 entreprises?
Il y a des autorisations ministérielles qui sont renégociées à chaque 5 ans et on les amène tranquillement vers la conformité, mais il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'équivalence avec la fonderie Horn. Dans les autres cas d'espèce, oui, il faut se rapprocher de la conformité, mais la fonderie Horn, c'est malheureux.
Avez-vous des avis de santé publique sur d'autres entreprises?
Non, pas à ma connaissance, pas dans cette proportion-là. La fonderie Horn, c'est réellement un cas d'espèce qui, malheureusement, a été négligé là, depuis plusieurs décennies.
Dernière question. Vous êtes ministre de l'Environnement. Je comprends que vous n'êtes pas le ministre de l'Économie. Si Horn, la multinationale qui chapeaute la fonderie Horn, demande des investissements du gouvernement du Québec pour se moderniser, êtes-vous d'accord avec ça?
Je vous disais tout à l'heure, c'est probablement un des plus gros complexes industriels au Québec ou parmi les plus gros. C'est des centaines de millions de dollars qui seront requis pour atteindre les normes que l'on leur impose. Il y a des programmes d'aide. Ils ne sont pas à l'environnement. Mon collègue à l'économie est invité dans la démarche.
Une multinationale qui fait 8-9 milliards de profits, est-ce que vous trouvez que les Québécois doivent payer?
Toutes les entreprises au Québec peuvent bénéficier de l'appui gouvernemental. Ce que je vous dis, c'est que la principale et la grosse partie devrait être assumée par l'entreprise elle-même. Si elle est éligible à certains programmes, comme d'autres entreprises, elle pourra toujours s'en prévaloir. On parle de centaines de millions de dollars qui devront être investis par l'entreprise elle-même.
Et si on doit fermer l'entreprise?
Il y aura des mesures d'appui lorsqu'une fermeture d'emprunt. C'est pas négligeable, hein? C'est 10% de la population totale de Rouyn-Noranda qui vit directement ou indirectement des activités de cette fonderie-là. Donc, si on devait la fermer ultimement parce qu'on, le compromis serait trop grand pour la santé, il y aura des mesures d'accompagnement. Mais on croit possible, et c'était la raison de mon déplacement hier, on croit encore possible d'amener cette entreprise-là à se conformer à la réglementation.
Je vous ai dit, c'est la dernière question, là. Ça va être vraiment la dernière. C'est quoi la crédibilité de l'entreprise quand il n'y a pas si longtemps, il vous demandait 20 fois la norme, il vous demandait 30 fois la norme. Je suis pas certain qu'ils respectaient toujours même ce qu'ils avaient établi comme chiffre.
En fait, c'est ce que je mentionnais à plusieurs reprises. L'entreprise a pris toute la corde que les gouvernements précédents leur ont donnée, sauf que cette corde-là, elle était trop grande, mais se conformait. L'entreprise se conforme à la précédente entente signée par les libéraux. Donc, c'est difficile de la prendre en défaut dans ces circonstances-là, mais la corde était définitivement trop grande.
Mais de voir une entreprise qui fait des milliards et qui attend d'avoir la corde serrée autour du cou pour se conformer,
Ils sont conformes à ce qui avait été signé. Cependant, c'est l'entente précédente qui ne faisait aucun sens au niveau de la santé publique, notamment.
Monsieur Charrette, merci d'être venu.
Un réel plaisir.
Ça, je suis pas certain.
C'est un plaisir, à chacune des fois.
Benoît Charrette est le ministre de l'Environnement. Maintenant, on va faire le point sur les finances du Québec. Hier, la VG nous a expliqué que le cadre financier présenté par Québec tenait la route. Quelques bémols, mais grosso modo, l'inflation a permis, je dirais, au gouvernement d'aller chercher beaucoup d'argent, ce qui lui donne une marge de manœuvre peut-être qui n'était pas anticipée. Le ministre des Finances est avec nous, Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour.
D'abord, là, vous avez, grâce à l'inflation, là, puis quand je dis l'inflation, c'est pour les revenus venant de la taxe, des taxes et également des impôts, vous avez pompé combien de plus?
Mais en fait, l'inflation, ça impacte. D'abord, il y a deux choses. Hein. Il y a la croissance qui est révisée à la hausse, croissance remarquable 2021, 2022 est révisée à la hausse. Et oui, il y a plus d'inflation. Alors, ça a un impact sur les revenus. Ça a un impact sur les dépenses et au net, le cadre financier s'améliore en moyenne de 2,3 milliards par année. Pour la première année, c'est plus, c'est de l'ordre de 4 milliards.
OK. Ça veut dire que quand vous faites le calcul, là, l'inflation vous a donné 2,3 milliards de plus.
Oui, bien là, il y a plusieurs facteurs en jeu, mais
en gros,
pour les fins de vos auditeurs, on va résumer ça comme ça.
OK. L'aviez-vous vu venir ou graduellement, vous êtes aperçu qu'il en rentrait plus?
Bon, il faut être conscient là que à la base de cette fluctuation dans les revenus puis les dépenses, il y a de la volatilité dans les données économiques. Alors, on a eu la plus grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale en 2021, et ensuite, on a eu un rebond remarquable de l'économie du Québec en 2021. Alors, la pandémie, la récession en 2020, le rebond en 2021, et ça... ça amène plus de revenus. Ensuite, il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a augmenté les prix du pétrole, des aliments, de l'énergie. Alors ça fait bondir l'inflation. Alors ça amène une autre volatilité. Alors on donne toujours le scénario le plus probable, le meilleur estimé selon nos connaissances. On a plus de 200 professionnels qui travaillent là-dessus. Et le rapport préélectoral vise à donner un portrait complet de l'économie, de la situation financière du Québec en date dans le cas d'hier du 15 août.
OK. Devant ce que vous venez de décrire comme les montagnes russes un peu, la situation instable, bon, allez-vous jouer de prudence ou si on a bien compris dans les propos d'hier que vous êtes en train de voir comment baisser les impôts des Québécois?
Mais c'est deux choses, là. Le cadre financier, il est prudent et responsable parce que la saine gestion des finances publiques, c'est une priorité du gouvernement, là. C'est reconnu par le directeur parlementaire du budget à Ottawa, les agences de crédit, les investisseurs apprécient la saine gestion des finances publiques du gouvernement du Québec. Ensuite, il faut financer, avant de parler de réduction du fardeau fiscal, il faut bien financer les principales missions de l'État, santé, éducation, enseignement supérieur, lutte au changement climatique. Il faut prévoir les coûts de reconduction de programme parce qu'on va avoir des hausses de coûts dans les infrastructures au niveau de la santé. Alors, on prévoit ça. On a aussi nos obligations de revenir à l'équilibre budgétaire, l'obligation de réduire le poids de la dette. Et après ça, c'est important de constater, et depuis 2018 qu'on le dit, on a commencé, mais là, on veut le faire plus précisément au niveau de l'impôt du revenu des particuliers. Les Québécois sont les citoyens les plus taxés en Amérique du Nord. Dans la mesure où nous avons plus de revenus, il est souhaitable de réduire leur fardeau fiscal.
OK. Mais là c'est beaucoup de beaucoup de crémage autour de la réponse. Là. Si je vous pose une question simple, comme un Québécois, un citoyen qui vous écoute ce matin, lui, est-ce qu'il comprend, si je vote pour la CAQ réduit mes impôts?
Bien, je vous dis qu'on prend l'engagement que si nous sommes réélus, nous allons réduire l'impôt sur le revenu des particuliers. Alors, la réponse, c'est oui.
Et quand vous dites réduire l'impôt, comment vous y prenez, c'est-à-dire par le biais de plusieurs mesures? Avec mon ami Pierre-Yves, tantôt, on regardait ça. Là, c'est quoi? C'est une baisse selon les tables d'impôt, des crédits d'impôt changés. Ça veut dire quoi, là?
Bien, on va donner plus de précision lorsqu'on va présenter notre plan électoral. Et à ce moment-là, tous les détails vont être fournis et vous et M. McSween, vous pourrez analyser ça.
OK. Ça veut-tu dire que ce que vous me dites ce matin, c'est en plus du 500 $ qui a été projeté en cas de victoire de la CAQ?
Bon, ça, c'est deux choses différentes.
OK. Okay?
Parce que une réduction du fardeau fiscal, c'est permanent. Okay?
Mm-hmm.
Et ça vise à stimuler la création de richesses, à encourager l'effort de travail pour que les gens qui travaillent en gardent plus dans leur poche. Alors, c'est vraiment un incitatif à travailler, à augmenter ses revenus, à étudier. Et c'est un incitatif pour ça. La compensation de 500 $ que nous avons donnée dans le dernier budget vise à compenser la hausse de l'inflation qui est immédiate en 2022. Et c'est pas la même clientèle, là, parce que...
Non, mais ça, je comprends, mais c'est parce que là, juste que l'inflation, on le voit, là, ça demeure élevé. Bon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes réélu en octobre, les Québécois s'attendent à avoir un autre montant de 500 $ pour compenser cette poussée de l'inflation? Ça, c'est-tu ça qu'on a compris ou c'est pas encore décidé?
C'est-à-dire que c'est ce que nous avons dit, que okay. Dans la mesure où le régime fiscal est indexé de 2,7% et qu'on révise l'inflation dans le rapport préélectoral, on a révisé l'inflation de 4,7% à 6,5%. Et c'est, encore une fois, c'est pas la même clientèle. Là. Je veux dire, parce que c'est tous les Québécois de plus de 18 ans qui ont reçu une compensation pour faire face à la
hausse. OK, mais ma question, simplement, y en a-t-il une deuxième qui s'en vient?
Mais en vertu de ce que vous voyez, que la prévision d'inflation a été rehaussée, il y a lieu d'avoir une compensation.
Donc, il y aura une deuxième compensation. OK, parfait. C'est vous qui l'avez donné, c'est pas moi, là. C'est pas que je comprends. L'autre chose, est-ce que vous êtes capable de me dire, parce que les autres partis politiques le font, là, ils promettent 1 000 de baisse d'impôts en moyenne, un autre va me dire 2 000. Vous, c'est combien?
Ben nous, on va donner tous les détails de notre promesse en temps et lieu. Là, hier, j'ai donné une indication. L'objectif, c'était donner le portrait le plus juste des finances publiques et de l'économie du Québec. Et nous avons indiqué, comme nous l'avons fait en 2018, que nous avons l'intention de réduire le fardeau fiscal des contribuables.
OK. En même temps, il y a la mairesse de Montréal, Mme Plante, qui hier a fait un appel aux partis politiques en campagne électorale, et encore plus spécifiquement au gouvernement, elle veut un engagement de voir une réforme de la fiscalité municipale, que les besoins des villes sont importants. On peut prendre le logement, mais prendre d'autres sujets aussi, et qu'on peut pas toujours pomper ça par des taxes. Êtes-vous ouvert à négocier une refonte de la fiscalité avec les villes, notamment Montréal?
Mais c'est-à-dire que le pacte fiscal il est encore bon pour 2 ans. Là. Fait qu'en temps et lieu, il y aura une négociation avec les municipalités.
Pas avant 2 ans.
Un pacte fiscal.
Pas avant, non. Il n'y a pas de...
Mais on a dit... Je veux juste être clair, là. On a fait des gestes importants pour lutter contre la violence armée, tant au niveau de la prévention que de la création de l'unité Centaure. Et on est en action déjà, là. Il y a des sommes qui ont été accordées. On n'a pas besoin de l'élection pour ça, là.
OK, mais donc, ce qui est clair, là, c'est que quand le pacte sera à échéance, on verra, mais pas avant.
Mais il va y avoir une négociation.
OK.
En temps et lieu.
M. Girard, merci. Bonne journée.
Bien, merci beaucoup.
Au revoir. Éric Girard est le ministre des Finances du Québec. Maintenant, justement, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est avec nous. Madame Plante, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, première réaction?
Ben écoutez, pour nous, c'est pas satisfaisant. C'est évident, là. On peut pas... La raison pour laquelle on veut une entente de transition, c'est parce que les besoins sont immenses, là. Que ce soit à cause de la pandémie, que ce soit avec la crise climatique. Et surtout, quand on entend le ministre des Finances, M. Girard, hier, apprendre à la population les revenus là, dont qu'ils ont en main. Alors, pour résumer ma position, ce que je veux, moi, c'est un équilibre, une équité fiscale, de la même façon que Québec a demandé au gouvernement fédéral à travers le temps, une équité fiscale en fonction de la responsabilité. Moi, c'est ça que je veux. Alors, vous, puis vous, M. Arcan, je suis tanné de quitter de l'argent, là. J'aimerais ça que le gouvernement, avant le pacte fiscal, puisse reconnaître la part des villes dans la gestion des grands dossiers du Québec.
Mais le gouvernement va vous répondre un peu comme M. Girard l'a fait. Quand il y a urgence, quand il y a un besoin, on intervient. On intervient dans la lutte contre la violence, on intervient pour le logement, on intervient pour le soutenir pendant la pandémie. Autrement dit, on y va de façon ponctuelle.
Bien, écoutez, là-dessus, je vais donner raison à M. Girard que je rencontre sur une base régulière, comme quoi le gouvernement a réussi à aider les villes. La pandémie, le meilleur exemple, là. Mais moi, là, de travailler à la pièce, un, je trouve que c'est pas une bonne façon de gérer les finances. La gestion à la pièce, c'est jamais bon. Il faut avoir une vision d'ensemble. C'est pour ça qu'hier, j'ai dit, voici la vision que les Montréalais souhaitent se matérialiser, qu'ils veulent mettre en place. Quel gouvernement va dire, oui, Montréal, métropole économique culturelle du Québec, on va vous donner les moyens de vos ambitions? Fait que, quand j'ai de la misère à comprendre pourquoi un gouvernement voudrait pas justement aller de l'avant à soutenir sa grande ville, mais moi je parle aussi pour toutes les villes, c'est pas normal que nous on dépende à 70% de l'impôt foncier et que de l'autre côté un gouvernement va baisser les taxes. Cette richesse actuelle est entre autres parce que la consommation de la population du Québec, dont la moitié est dans la région métropolitaine, là, on a contribué à cette richesse-là. On peut-tu avoir un rééquilibre? On peut-tu avoir une équité?
Est-ce que je comprends?
Un meilleur partage des richesses?
Est-ce que je comprends que vous dites, dans le fond, baissez pas les taxes et donnez plus de ressources aux villes?
Ben, moi, je pense que, à la limite, s'ils veulent faire les deux avec les.
Non, mais à un moment donné. Je comprends, non, mais.
Ben, je peux vous dire une chose. Là où moi, je suis pas d'accord, c'est quand un gouvernement supérieur baisse des taxes, mais va répondre à une ville qui a des besoins urgents, que ce soit en sécurité publique, en changement climatique, en habitation, on peut en parler. Si on nous dit, ben, vous avez juste à augmenter vos taxes si vous voulez avoir plus de revenus, là, j'ai un problème.
Je prends, en fait, je prends une base de comparaison, là. Les rôles d'évaluation s'en viennent là, dans les différents arrondissements, puis on sait que c'est une augmentation de la valeur substantielle.
Oui.
Là, le premier réflexe, c'est de dire mon compte de taxe va flamber. Je sais qu'il y a toujours un ajustement. Je vous demande pas de m'annoncer le budget de cette année, là, mais qu'est-ce que vous dites aux Montréalais qui voient la valeur de leur propriété sur papier grimper de 20 ou 30 %? Ils s'attendent à quoi comme augmentation du compte de taxe?
Bien, la question est excellente, puis vous l'avez dit, là, ça semble être élevé. J'aimerais en profiter pour rappeler que le rôle foncier, c'est déterminé pas par la Ville de Montréal, pas par les municipalités, c'est par Québec, c'est au niveau des finances. Ils ajustent le rôle foncier. Donc, nous, c'est une décision avec laquelle on est prise. Et donc, moi, ce que je veux pas faire, ce que je ne souhaite pas faire, puis ce qui n'a pas été fait au cours des dernières années depuis qu'on est au pouvoir, c'est d'augmenter de façon importante les taxes en sachant le contexte d'inflation, dont je le rappelle, les villes, on ne profite pas en ce moment. C'est essentiellement le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral qui profitent de la hausse de la TVQ et de la TPS.
Mais là, vous ne me dites pas la hausse de mon compte de taxe à venir, là.
Ben non, moi, je ne peux pas vous le dire. Parce
mais allez-vous vous contenter de 2 %? On pourrait-tu avoir des augmentations allant jusqu'à 4 %?
Ben, quand on regarde la façon dont on s'est comporté, comme on a géré les finances. Depuis que je suis au pouvoir, on a toujours respecté la capacité de payer des Montréalais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de dire aux partis, ne nous abandonnez pas, ne me dites pas, bon, ben, t'as juste à augmenter tes taxes foncières à Madame la mairesse, nous, on va envoyer des chèques par la poste, ou nous, on va faire ci ou ça. Je trouve que c'est inéquitable, ce n'est pas juste, mais j'aimerais aussi mentionner qu'à côté de ça, en même temps que je demande de l'argent aux différents partis, moi, je suis en train de faire un chantier sur la fiscalité parce qu'on en a des solutions, Montréal, pour aussi diversifier notre assiette fiscale. Moi, je ne demande pas la charité. Je veux dire, étant donné que j'ai des responsabilités importantes au niveau de la santé mentale, de l'itinérance, de l'habitation, donnez-moi ce que je mérite, mais je vais aussi diversifier mon assiette fiscale au cours de l'automne pour cette réflexion dont M. Gérard parlait, là, la négociation du prochain pacte fiscal.
OK. Puisque vous êtes là, parlons quand même des événements violents là, qui marquent la métropole depuis les derniers mois, là, bon, au printemps, puis il y en a eu encore durant l'été. Quelle sorte de bilan vous pouvez faire aux citoyens? Puis je pense aux gens de certains quartiers plus chauds, là, on le sait, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, qui disent, oui, on voit un peu plus de policiers, mais en même temps, c'est inquiétant, puis on se demande si c'est pas devenu dangereux de sortir prendre une marche en soirée, là.
Ben, écoutez, on entend, là, c'est-à-dire que le sentiment d'insécurité de plusieurs communautés, il est présent puis il est réel. J'étais à Montréal-Nord vendredi passé pour marcher avec un organisme communautaire qui organisait une belle marche avec les jeunes pour demander la paix. Donc, je trouve il y a beaucoup de résilience, de force, mais en même temps, il y a de l'inquiétude. Alors, mon message, c'est de dire que tout est mis en place pour pouvoir, comment dire, contrer l'augmentation de la violence. Il y a des mesures qui marchent tout de suite. Il y a des mesures qui vont donner des résultats dans le temps. Quand je pense, entre autres, à la prévention, comment on travaille avec différents milieux qui sont plus affectés. En même temps, j'ai besoin de réitérer haut et fort à quel point le SPVM, non seulement est sur le terrain, mais les enquêtes se font et les enquêtes aboutissent. Alors ça, il faut que la population l'entende, que c'est... Il n'y a aucun effort qui est mis de côté. Le SPVM l'a bien mentionné que les effectifs sont suffisants sur le terrain, les enquêtes se font. Puis nous, on va continuer à appuyer et le SPVM sur le court, moyen puis long terme pour rétablir la paix à laquelle on est habitué. On traverse un moment difficile, ça c'est sûr, là.
Madame Plante, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, au revoir.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Là, on s'en va complètement ailleurs. Parler de voyage. Alors, imaginez, là, vous préparez un voyage en famille, destination Floride. C'est un court vol. Et quand vous arrivez au comptoir, on vous explique qu'il y a, c'est un vol d'Air Canada, là, il y a eu de la surréservation. Et dans un premier temps, on vous explique qu'il n'est pas certain que, un, vous puissiez partir ou que tout le monde puisse partir. Il y a deux angles avec ça ce matin. Le premier, c'est l'histoire de Chantal Legault, que je vous présente dans un instant. Puis aussi, quelles sont les obligations des transporteurs et quels sont les droits des clients qui voyagent. Chantal Legault, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Racontez-nous un peu votre aventure. Vous deviez partir en famille pour la Floride au mois de juillet.
Effectivement, on a réservé en mai, début mai. Et puis, on était 7 personnes, donc c'est toute une partie de la famille. On a réservé en ligne, forfait, avec Universal Studios et l'hôtel et tout. Puis, il n'y avait pas, dans ce moment-là, une option pour choisir les sièges de l'avion. Donc, par la suite, moi, j'ai suivi les procédures d'Air Canada, qu'il faut être vacciné, d'avoir les passeports, et ainsi de suite. J'ai fait j'ai surveillé sur l'application. Puis, je voyais des sièges qui étaient disponibles, mais au montant de 55 $. Donc, moi, je me disais que finalement, j'ai payé un billet d'avion, donc je devrais avoir un siège. Selon la procédure d'Air Canada, on a
dit... Juste que je comprenne bien, vous dites, j'avais acheté mes billets, mais je voyais qu'il y avait encore des sièges disponibles, donc je me suis dit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de problème.
Exactement.
OK.
Donc, ensuite, j'ai procédé à la réservation 24 heures avant, qui était suggérée par Air Canada, où on pouvait attendre, pour éviter les attentes, on pouvait aller sur place. Bon. 24 heures avant, moi, je me lève, j'essaie de réserver mon siège, ça fonctionne pas. Je me suis dit, il doit y avoir un bug, c'est comme rien, là, il n'y a pas de siège de disponible. Je l'ai fait au moins 3 fois. Ça ne fonctionne toujours pas. Mes 4 billets que j'avais, moi, ma soeur, elle avait déjà eu ses sièges. Elle avait procédé, je crois, quelques minutes avant. Donc, elle avait les sièges. Moi, je n'avais pas de siège. J'étais en stand-by. Donc, j'ai communiqué avec Air Canada. Et puis, un agent m'a répondu comme quoi que, oui, les sièges sont bloqués, madame, pour les personnes en stand-by comme vous. Donc, j'ai dit, parfait. Il dit, vous allez partir sans problème. Ah bon, j'ai dit, pas de stress. Donc, je partais le lendemain matin. On se levait très tôt le matin pour aller à l'aéroport. On était là au moins 3h30 d'avance pour que je puisse avoir mes sièges. Donc, j'arrive sur place. La dame a dit, on va vous appeler, madame, vous êtes en stand-by, on va vous appeler dans une heure.
Ça veut dire que les gens comprennent bien, là, ça veut dire qu'on n'est pas certain que vous allez partir, là.
Non. Bien, sur le coup, la dame au comptoir m'a dit, vous allez partir, il y a des sièges qui vont se libérer, il n'y a pas de problème. Une heure avant, une heure après, je retourne la voir, elle trouve un siège, donc je l'assigne à ma mère. Et il reste mon mari, mon fils et moi qu'on n'a pas de siège. Donc, l'embarquement commence. La famille se retrouve dans l'avion et moi, je suis encore sur le quai à savoir quand est-ce que je vais avoir un siège. Puis là, je me présente au comptoir parce que le vol part à 8h10. Là, il est 8h05, j'ai toujours pas de siège. Il y a une dame au comptoir qui était francophone qui dit, ben madame, on surréserve les avions. Il aurait fallu que vous achetiez un siège pour être certaine d'embarquer. Puis, si vous n'êtes pas capable d'embarquer sur ce vol-là, on vous met sur le vol d'après qui est le lendemain.
Madame Legault, le temps file puis j'ai d'autres volets à traiter. Finalement, vous avez eu la place dans l'avion.
Oui, j'ai eu la place dans l'avion grâce à la dame anglophone qui a... je ne sais pas quel siège qu'elle a pris, mais l'autre dame lui a dit, ben c'est ton corps, tu t'arrangeras avec tes problèmes.
Vous avez passé un beau séjour en Floride?
Un beau séjour, mais avec beaucoup de stress juste avant.
Ben ça, je comprends, avant de partir, quand tu dis la moitié de la famille dans l'avion, puis on ne sait pas si ça va aller au lendemain. Merci, Mme Legault. Je vais parler maintenant avec Jacob Charbonneau, qui est cofondateur et PDG de l'entreprise Vol en retard. Monsieur Charbonneau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, là, le phénomène de la surréservation, c'est fréquent, ça?
Oui, tout à fait fréquent. C'est une pratique qui est commune à l'ensemble des transporteurs. On va jusqu'à surréserver 5 % de l'appareil parce qu'il y a une moyenne en 10 et 20 pré-pandémie là, de gens qui ne se présentent pas ou qui vont modifier leur plan de voyage jusqu'à 3 heures avant le départ.
OK. Alors, mais comme acheteur de billets, là, comment je dois m'y prendre pour être certain que si j'achète un vol comme madame pour la Floride qui part à 8 heures, je veux être sûr de ne pas le manquer? On part un groupe de 7, là. Ça serait fun que tout le monde parte en même temps.
Effectivement, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de certitudes ou de garanties, surtout dans l'état actuel de l'industrie du voyage. Il fut un temps où est-ce que c'était très relaxant et zen de partir en voyage. Maintenant, c'est un petit peu plus anxiogène et un petit peu plus stressant.
Mais donc, il n'y a pas moyen là, d'avoir une certitude.
Il n'y a pas moyen d'avoir une certitude. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que les gens qui vont avoir justement réservé leur siège, il y a moins de chances. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est garanti. C'est pas une procédure qui est écrite nulle part, du moins pas à ma connaissance. Mais ce qu'on entend, c'est que souvent les gens qui ont fait la présélection, qui ont un siège d'attitré, ne se feront pas surréserver.
OK. Est-ce que on l'a vu là durant le mois de juin, le mois de juillet également, là, beaucoup de vols annulés, je pense à Air Canada, beaucoup de... Ça veut dire que c'est un peu le jeu de domino. On annule un vol, puis on te replace sur un autre vol, exemple le lendemain ou plus tard le soir. Là. Il y a eu une augmentation du nombre de ces vols-là durant l'été, là.
Oui, certainement. Donc, on va regrouper des vols sur les mêmes destinations, soit sur des jours différents, soit sur des horaires différents. On va faire plusieurs, on va jouer un petit peu avec des casse-têtes là sur les différents vols. Donc, on regroupe beaucoup plus de gens à bord des appareils. Donc, il va y avoir de plus en plus de surréservations au cours des prochains mois.
Quels sont mes droits comme voyageur, puis quelles sont les obligations des transporteurs à mon endroit?
Bon, le premier, au Canada, si vous êtes assis à bord de l'appareil, on ne devrait jamais vous sortir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a quelques années, sur les ailes de United, on avait sorti de force un docteur. Ça ne devrait pas jamais arriver au Canada. Ensuite de ça, il y a des indemnisations. Donc, au Canada, on parle de 2 400 $ si vous êtes surréservé. En Europe, on parle de jusqu'à 600 €. Et aux États-Unis, c'est 400 % du prix de votre billet d'avion, jusqu'à. Donc ça, au Canada, ça devrait être automatique. C'est la seule chose au niveau de la charte canadienne des voyageurs qui est automatique. On devrait vous payer sur le champ ou dans les 48 heures.
Je vous arrête, là. Ben, en fait, peut-être que vous allez me répondre. Là. Quand vous dites « ça devrait », est-ce que ça veut dire que c'est pas si automatique que ça?
Exactement. Donc, c'est ce qui devrait être fait. Malheureusement, beaucoup de clients, c'est pas fait, sont pas au courant. On doit aller les aider, on doit aller chercher des indemnisations pour eux. C'est une grosse problématique de la charte canadienne. C'est pas toujours suivi et c'est suivi un peu au bon vouloir des transporteurs.
Quelle est la réputation d'Air Canada?
on entend beaucoup parler de ce temps-ci Air Canada, qui est un peu notre champion là au Canada en termes de plaintes. Il y a beaucoup de problématiques. Évidemment, c'est le plus gros transporteur. C'est normal aussi qu'on entende le plus parler. Plus le transporteur est gros, plus il y a du regroupement de vols, plus il y a des changements d'horaire à dernière minute. Donc, évidemment, au niveau de la surréservation, c'est un transporteur qui est très touché. Par contre, c'est aussi celui qui a le plus de vols disponibles pour donner des alternatives de voyage.
Parfait. Merci, M. Charbonneau. Jacob Charbonneau est le cofondateur PDG de l'entreprise Vol en retard. Mais c'est important de savoir que vous avez des droits et qu'on doit vous indemniser. C'est ça. Peut-être qu'on va oublier de vous le dire. C'est pas impossible, mais c'est important de prendre cette note. Très bien.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.